BFM Business, tout pour investir. Étienne Braque.
C'est parti pour Tout pour Investir. On est ensemble en direct jusqu'à 12h. Vous connaissez le rendez-vous. 11h, 12h, Tout pour Investir. Et puis ensuite, vous retrouverez Marie-Cœur de Roy pour les pros de l'IMO. Il sera question d'investissement ce matin, comme tous les jours dans cette émission. Le non-côté, la pierre auront leur place dans la prochaine heure. Dans quelques minutes, avec Mathias Bacino de Trade Republic et Marc Teppelmann de Cashby, mais également Michel Delobel de MW Gestion, nous parlerons des nombreux records sur le marché action, que ce soit en Asie, mais aussi aux États-Unis, alors que le mois de mai approche et vous connaissez le dicton sell in May and go away. La dette publique, en tout cas, elle ne fait pas de pause. D'après Eurostat, le déficit a dépassé les 5% du PIB l'an dernier, 5,1 précisément, c'est-à-dire la deuxième position après la Belgique en Europe. La Belgique d'ailleurs qui a vu sa note abaissée vendredi soir par S&P Global. S&P Global qui a retiré son double A pour dégrader à double A moins en raison du déséquilibre budgétaire persistant et d'une lente consolidation du budget. Pour rappel, la France a perdu son double A l'an passé. Désormais, la France doit se contenter d'un A+ chez S&P Global. Dans ce contexte, tous les États font la chasse aux taxes, avec désormais, vous le savez, en France, une nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales à partir de l'an prochain. Alexandre Boutin de la financière de Lorient abordera cette taxe qui a été votée en fin d'année et qui entrera en vigueur à partir de l'année prochaine. Comment aborder cette nouvelle taxation et quelles sont aujourd'hui les raisons, le pourquoi du comment? Ça sera à partir de 11h30. En attendant, on va faire un petit tableau de bord des marchés.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Un tableau de bord, comme tous les jours, pour commencer cette émission, avec des marchés européens qui sont très légèrement dans le vert ce matin. Vous avez un CAC 40 qui prend 0,2%, idem pour l'Eurostox 50, quand le DAX à Francfort prend 0,4%. Un début de semaine sur une note prudente, sachant que c'est une grande semaine pour les indices européens et surtout pour les indices mondiaux, avec la Fed qui va prendre la parole mercredi soir. Jeudi, vous aurez Christine Lagarde également qui est attendue au tournant, que ce soit du côté de la Fed, de la BCE, mais également de la Banque du Japon ou encore de la Banque d'Angleterre cette semaine. Il ne faut pas attendre de hausse de taux. Mais bien sûr, les banquiers centraux seront scrutés. Chaque mot sera analysé pour essayer d'anticiper quel sera le comportement des banques centrales lors des prochaines réunions. Il sera bien sûr également question, comme vous en parlez dans ce sommaire, des GAFAM qui vont publier leurs résultats. Ça sera mercredi et jeudi soir. Des GAFAM qui, souvenez-vous, avaient annoncé plus de 600 milliards de dollars d'investissement à l'occasion de leurs résultats annuels en février. Qu'en sera-t-il? Ça sera bien sûr l'un des grands éléments de la semaine. Et puis la Bourse de Paris, elle ne sera pas en reste, puisque vous aurez de nombreuses publications d'entreprises arbitrées cette semaine. Pour rappel, il y en a eu 16 la semaine passée. Cette semaine, vous en aurez 11. Ça commencera dès demain avec Airbus. Et puis vous aurez des poids lourds de la cote comme Schneider Electric, qui publieront également leurs résultats en milieu de semaine. En attendant, les cours du pétrole sont toujours au-delà des 100 dollars. C'est le cas notamment du baril de Brent, qui est à 106 dollars. On est toujours au-delà des 100 dollars depuis jeudi dernier, avec un marché qui reste très prudent, à la suite de dernières nouvelles, notamment de l'agence Axios qui évoquait que Téhéran avait envoyé une nouvelle proposition à Washington en vue de résoudre le conflit et surtout de rouvrir le détroit d'Hormuz. La géopolitique, il y a de moins en moins d'impact sur les marchés européens, sur les marchés mondiaux. Là aussi, c'est un enseignement que nous aborderons dans quelques minutes avec nos invités. Juste avant, un petit point sur les devises. L'euro-dollar est toujours au-delà des 1,17. 1,1750, quand sur le front des sociétés, ce matin, aucune grande publication à souligner. Par contre, il faut suivre du côté du secteur automobile aujourd'hui. L'équipementier qui a vendu son équipementier à sa filiale d'intérieur automobile pour plus de 2 milliards de dollars au fond Apollo. Ça sera bien sûr l'un des grands thèmes également qui sera abordé cet après-midi dans BFM Bourse. Vous connaissez le rendez-vous à partir de 15h30.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Le déchiffrage à 11h05 avec nos deux invités ce matin en plateau. Marc Teppelmann, bonjour. Merci de nous accompagner ce matin. Vous êtes le fondateur de Cashby et Mathias Bacino, senior advisor chez Trade Republic. Bonjour à
bonjour.
Tous les deux. Comme je disais en préambule, beaucoup de sujets à aborder ce matin. Dans un instant, on parlera de dette publique avec donc la France qui est sur le podium une nouvelle fois. Deuxième place, d'après les chiffres de Eurostat, juste derrière la Belgique. Les ETF, que faut-il penser aujourd'hui de ces trackers? Vous donnerez votre avis juste dans un instant, Marc Teppelmann. Mais juste avant, Bah, commençons peut-être par ce dicton, sell and may and go away, sachant qu'on voit un peu partout Mathias Bacino, que les indices sont sur des records. Alors c'est vrai que l'Europe n'en est pas très loin, mais elle n'est pas sur des records, contrairement à l'Asie et contrairement aux États-Unis. C'est vrai que ça peut interroger certains investisseurs qui se disent, bah tiens, en fait, les marchés sont au plus haut, alors qu'on a toujours un conflit en Iran, que le pétrole est à 100 dollars, qu'on a encore beaucoup de questions sans réponse.
Alors c'est vrai que la saisonnalité historique des marchés prêche pour effectivement un mois de mai plutôt difficile en bourse. Et quand on voit la situation actuelle dans le détroit d'Ormuz et l'absence de réouverture à ce stade, on peut effectivement imaginer que la situation se complique. Néanmoins, Donald Trump et son comportement diplomatique agressif font que la prévisibilité des marchés financiers et de l'économie est quand même assez faible actuellement. C'est-à-dire que on a un niveau d'incertitude qui est vraiment très élevé, quoi, sur la suite économique et boursière de l'année. Donc, bien malin, qui saura dire si en mai cette année les marchés baisseront, parce que, à mon sens, la saisonnalité à ce stade est annulée par le elephant in the room, qui est la réouverture du détroit d'Ormuz. Donc, si le détroit réouvre et que une forme de paix est trouvée et qu'on peut relancer les échanges, on peut pas du tout exclure un très bon mois de mai en bourse cette année.
Alors un investisseur qui est sur du long terme, hein, qui prépare sa retraite, etc., il n'est pas là pour faire du tactique et se dire « est-ce que je vends aujourd'hui pour racheter cet été ?» Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce « sell and man, go away » Mark Tepelman?
D'abord, moi j'aime bien ces adages, il y en a plusieurs, celui-là m'a interpellé, donc j'ai fait mes recherches statistiques, et statistiquement, en moyenne, et c'est là le risque, ça marche. C'est-à-dire que si vous vendez systématiquement au mois de mai pour racheter au mois de novembre, statistiquement, du mois de mai au mois de novembre, année après année, on va faire du 2-3% en positif quand même, alors que de novembre jusqu'à la fin d'avril, on fait statistiquement et en moyenne du 7%, notamment sous l'effet du l'effet Père Noël, l'effet de début d'année, etc., etc. Maintenant, je rejoins parfaitement ce qui a été dit, et je pense surtout pour quelqu'un qui investit à très long terme, que d'essayer de timer le marché, même en prenant en compte des adages de ce type, c'est plutôt dangereux. Parce qu'il ne faut pas oublier une autre statistique qui me paraît tout aussi importante, qui est que sur des durées très longues, 20 ans et plus, quand on loupe les 10 meilleures sessions de bourse, on diminue son rendement de moitié. Et ça, timer le marché, personne ne sait le faire, surtout pas les épargnants individuels, mais même les pros se plantent. Et en loupant ces 10 jours, et certaines de ces sessions font souvent suite justement après des journées de correction, on met à risque sa performance sur le très long terme. Donc c'est un adage qui est sympathique, il est soutenu par les statistiques, mais moi, pour l'investisseur, l'épargnant individuel, je préconiserais de rester à l'écart et de l'écouter trop religieusement.
On a bien vu au mois de mars, hein, les investisseurs qui étaient sous-investis ont loupé le rebond qui a quand même été massif. Hein. Le Nasdaq a gagné 15% là, depuis le début du mois. C'est quand même impressionnant, Mathias Bacino. Sans parler des semi-conducteurs qui, là, parfois, sont en hausse de 20-30% en l'espace de
semaines. Le début d'année 2026, c'est une école d'humilité, je crois, pour les analystes et de manière générale pour celles et ceux qui observent les marchés financiers. Enfin, le seul conseil moi, que j'arrive à donner depuis le début de l'année, c'est de diversifier encore plus. C'est-à-dire que quand on a un tel niveau d'incertitude de court terme, mais aussi de moyen terme du coup, parce que si cette crise pétrolière se transforme en crise économique et en récession mondiale, les conséquences seront des conséquences de moyen terme. Donc pour l'instant, diversifier effectivement, des marchés qui remontent alors que Hormuz n'est toujours pas réouvert, c'est effectivement très surprenant. Et là, on voit que l'Europe commence à souffrir davantage. Est-ce que ce qu'on disait il y a plusieurs semaines sur ce plateau, c'est-à-dire que la victime principale économique de ce conflit serait l'Europe, est-ce que ça va se matérialiser? Moi, je vais suivre très très attentivement les réunions des banques centrales cette semaine, parce que entre la réunion de la Fed et la réunion de la BCE, il va y avoir quand même là des enjeux absolument considérables, quoi. Est-ce que les banquiers centraux vont agir maintenant ou attendre, quitte à déclencher un début de crise économique plus profond parce qu'ils n'auraient pas remonté les taux. J'aurais pas cru dire ça il y a 3 mois. Donc non, on est dans une situation qui est extrêmement incertaine. Et à ce stade, pour tirer des conclusions économiques et boursières, je pense qu'il faut attendre de voir si oui ou non le détroit est réouvert. Et il semblerait, enfin les analystes semblent s'accorder sur le fait que si d'ici une dizaine de jours le détroit n'est pas réouvert, les conséquences économiques seront vraiment massives, quoi.
À ce stade, le scénario, hein, que ce soit en France, mais même au niveau mondial, c'est moins de croissance, plus d'inflation. Donc, c'est quand même un équilibre difficile pour les sociétés, mais aussi pour les États. Hein. C'est vrai que, hasard de calendrier, Eurostat a fait la semaine passée un petit peu son classement hein, des pays qui suffoquaient de leurs dettes. La France est au deuxième rang, derrière la Belgique. Et puis, malheureusement, c'est pas prêt de s'arranger parce qu'on aura moins de croissance. Qui dit moins de croissance dit moins de rentrée fiscale. Et Bercy qui annonce la semaine dernière devoir trouver 6 milliards d'euros supplémentaires pour tenir son budget.
Ma conviction personnelle, c'est que on est en train de réaliser collectivement, à la fois dans les médias et dans l'opinion publique, que la France est nue. C'est-à-dire que on dit souvent en plaisantant que c'est quand la marée baisse qu'on voit qui avait un maillot de bain. Bon, bah là, le conflit en Iran fait que la marée économique baisse très fort d'un coup, et on s'aperçoit assez brutalement du fait que la France n'a plus les moyens. On vient de mettre 150 millions d'euros à peu près pour soutenir notre économie face à ce choc, alors qu'en 2022, on avait mis 250 milliards. Donc, il est clair qu'on n'a plus les moyens, et que la dette est devenue un problème absolument central dans le débat public français, et que à ce stade, et c'est un papier que j'ai lu dans les Échos il y a quelques jours, de l'ancienne directrice du budget Isabelle Bouillot, donc on peut pas être là sur, on n'est pas sur un profil de complotiste économique, je veux dire, qui nous explique que la France est en train de se mettre à l'arrêt en fait économique et que ça part de la dette. Donc quand on a 70 milliards d'intérêts de la dette à payer et qu'on a un budget qui est le nôtre, c'est-à-dire un budget absolument catastrophique parce qu'il n'investit pas pour l'avenir, eh bien effectivement les prêteurs et les analystes nous sanctionnent. Et Moody's, qui ne dégrade pas la note de la France il y a quelques jours, portera une responsabilité forcément, d'une manière ou d'une autre.
Là, c'est la Belgique hein, qui s'est fait dégrader vendredi soir. C'est S&P qui a décidé d'abaisser d'un cran la notation du pays à cause justement de ce déficit hein, qui est au-delà des 105%. Comment vous, chez CashBee, vous regardez ce sujet, Marc Tepelman, sachant qu'à court terme, ça peut peut-être offrir des opportunités puisqu'on a des rendements qui ont progressé.
Oui, alors il y a la réponse macro ouais. Et effectivement il y a la réponse au niveau de l'investisseur individuel. Pour la réponse macro, je rejoins alors à 100% ce qui vient d'être dit. C'est très très inquiétant de voir que le second poste d'un budget, c'est le coût de la dette. C'est très très inquiétant de voir que aujourd'hui on a aucune flexibilité budgétaire pour répondre à des urgences qui sont, ils se trouvent aujourd'hui liés à la fermeture du détroit d'Ormuz. En revanche, au niveau de l'épargnant individuel, oui, quelqu'un qui est investi dans un fonds euro, qui est un des produits favoris des épargnants français, bah, il peut espérer d'en tirer des rendements plus attractifs dans les années à venir, tout simplement parce que le fonds général des différents assureurs qui proposent des fonds euros est très largement investi en obligations étatiques à très long terme et qu'il se trouve que les nouvelles obligations étatiques qui sont à l'offre proposent des taux d'intérêt plus élevés, bien plus élevés qu'il y a un an. Ben pourquoi ? Ben parce que les prêteurs commencent à avoir des doutes sérieux sur la capacité de tel ou tel pays de pouvoir honorer sa dette qui ne fait que croître. Mais au niveau individuel, oui, on peut espérer, par exemple, que sur un fonds euro, on va pouvoir recevoir des rendements de l'ordre de 3, voire plus, % net de frais par an, là où le livret A, je vous le rappelle, est à 1,50.
Mais le livret A pourrait remonter si l'inflation continue de remonter. Bien malin là aussi qui peut prévoir le niveau d'inflation en fin d'année parce que ça dépendra des cours du pétrole, Mathias Bacino. En attendant, cette inflation à court terme, elle se voit dans tous les indicateurs grâce notamment à la remontée ou à cause plutôt des prix de l'énergie à la pompe.
En fait, j'ai lu une certaine quantité de papiers de la BCE, de la Banque de France, du FMI qui ont travaillé ces dernières semaines sur des scénarios d'inflation. Et à ce stade, à peu près tout le monde s'accorde sur deux choses. La première, c'est que l'inflation va se généraliser à d'autres produits que simplement l'énergie, entre autres à l'alimentaire, puisque là, on est déjà quasi certain d'avoir une hausse des produits alimentaires en fin d'année. Le deuxième élément, c'est que, en gros, pour la France, on s'attend à une deuxième partie de l'année avec une inflation autour de 3%. Voilà ce qu'on peut tirer des rapports d'économistes qui ont été publiés. Donc 3% d'inflation, à un moment donné, le gros problème, c'est qu'il y a de moins en moins de croissance parce que la France n'investit pas dans son avenir Et donc, moins de croissance, plus d'inflation, et un coût de la dette qui augmente encore et toujours, ça crée un moment donné un risque pour le pays qui est de voir la dette ne plus être soutenable. Pourquoi ? Bah parce que tout simplement, il n'y a pas suffisamment de croissance pour compenser la hausse des intérêts, quoi. Donc c'est pour moi le plus gros sujet de notre pays pour les 12 prochains mois. Et ce qui m'amène évidemment à la question des retraites, puisque la question de la dette en France est en fait la question du système de retraite, la question du pouvoir d'agir de l'État est celle du système de retraite en fait. Et je note que au même moment où on s'aperçoit que la dette en France est en train de devenir un problème absolument fondamental, eh bien on a en même temps les personnes de Bercy qui nous disent que peut-être il faudrait trouver une manière de présenter les comptes publics de manière plus juste aux Françaises et aux Français, entre autres à commencer par le déficit des retraites, puisque le déficit du système de retraite, contrairement à ce qui est dit, n'est pas de 5 milliards d'euros cette année, mais plutôt de l'ordre de 70 à 80 milliards. Ça commence à se voir. Donc on dit souvent que quelqu'un qui est conscient d'être malade est déjà à moitié guéri. Eh bien là, il me semble qu'on est en train petit à petit de prendre conscience. Et ça fait mal, mais au moins après, on peut avancer, quoi.
Dans un an, il y a des élections. Espérons que ce soit un sujet, en tout cas, qu'il soit sur la place publique, ce sujet de la dette.
Ah ben, il va l'être par la question du pouvoir d'achat, en fait. Le lien entre le surendettement de notre pays et la baisse du pouvoir d'achat est en train de se voir. Et donc, comme le pouvoir d'achat est la préoccupation principale des Françaises et des Français, on peut espérer que le lien avec la dette soit fait.
Le 10 ans français, donc le prix auquel s'endette la France en ce moment, c'est 3,7%, Mark Tepelman. Oui. Hein, c'est vrai qu'avant le conflit, on était plutôt aux alentours des 3,2. Oui. La charge de la dette, c'est 50, 60 milliards, et puis ça fait que progresser d'année en année. Hein, forcément, là, si en plus, vous avez des taux qui continuent de grimper. Comment vous regardez ce sujet-là par rapport à ce qui vient d'être dit, notamment sur les marges de manœuvre et sur ce cercle vicieux, entre guillemets.
C'est intéressant de voir, c'est évidemment l'évolution du niveau de ce taux, mais aussi en relatif. C'est-à-dire qu'il y a 10, 20, 30 ans, quand je travaillais en salle des marchés, la France était parmi les bons élèves en Europe. Et que nos taux, il était de bon ton de les comparer à l'Allemagne, qui était évidemment le meilleur élève de la classe. Et donc, on payait, nous, la France, un écart de 20 centimes, 0,2% de plus. Et c'était estimé comme étant le bon reflet de l'état des choses. On était un pays à qui prêter ne représentait pas un très grand danger. À l'inverse de notamment l'Italie, la Grèce et le Portugal et l'Espagne. Ces quatre pays que je viens de citer viennent de passer par une période certes très douloureuse, mais ont pris les problèmes de déficit budgétaire à bras le corps, soit parce que ça leur a été imposé par les autorités européennes ou internationales, soit par une volonté très forte et une prise de conscience très forte. Il se trouve qu'aujourd'hui, un certain nombre de ces pays aujourd'hui s'endettent à des tarifs moindres que la France. Ce qui veut tout dire. Le marché, je veux bien entendre qu'il n'est pas toujours parfait, mais sur des durées relativement longues, le marché, il dit ce qu'il pense. Et le marché, aujourd'hui, il nous dit « La France, vous n'avez aucune marge de manœuvre. » Et on estime que le risque de défaut de la France, certes encore très éloigné aujourd'hui, est plus élevé que celui d'une Italie, d'une Espagne, qui ont mis de l'ordre dans leur compte.
Et dans ce contexte, vous faites quoi aujourd'hui chez CashB, concrètement ? Alors, vous êtes en relation avec des clients, avec des investisseurs, comment vous les aiguillez ?
On prend la diversification par classe d'actifs, par région, par secteur. On se dit que sur le très long terme, encore une fois, malgré les dangers macroéconomiques qui sont devant nous, malgré l'incertitude et l'instabilité géopolitique qu'on teste tous les jours, il y a encore espoir de croire à une croissance mondiale sur le long terme. On pense que l'IA aura un impact majeur sur la productivité dans bon nombre de secteurs. Encore une fois, compliqué de les mesurer aujourd'hui, mais relativement certain sur le fait que ça va avoir un impact potentiellement positif sur un bon nombre de secteurs. Et donc, rester diversifié par classe d'actifs, par région, et en se rappelant que les chocs, il va y en avoir de temps à autre, mais qu'on fait un investissement à long terme, justement pour pouvoir espérer un rendement en moyenne sur le long terme qui dépasse de loin l'inflation, eh bien avec ces éléments-là, on devrait s'en sortir. Et donc, on conseille surtout à nos clients de continuer à faire des investissements réguliers.
Ce qui est difficile en fait en ce moment, c'est que le moral du consommateur et le moral de l'investisseur, qui sont une seule et même personne, n'est pas le même. C'est-à-dire que c'est une statistique qui m'avait marqué la semaine dernière, c'est que on a une confiance, un moral du consommateur américain qui est au plus bas et des marchés financiers américains qui sont au plus haut. Et ce qu'on vient de dire sur l'avenir à court terme de la France, qui va devoir se serrer la ceinture, je veux dire, il y a pas de cas où on ne sera pas obligé de se serrer la ceinture en France, eh bien, ça ne veut pas forcément dire non plus que le CAC 40 va se péter la figure. Parce que les entreprises du CAC 40 font une grande partie de leur chiffre d'affaires à l'étranger, sont des groupes d'envergure mondiale. Et donc, être capable en soi-même de différencier le consommateur de l'investisseur, ça va peut-être être le challenge 2026 des investisseurs particuliers, qui sont nombreux et qui sont beaucoup à être débutants. Et débuter dans l'investissement dans des marchés pareils, c'est pas facile. Donc le besoin d'accompagnement et d'explication est très important, je crois.
Et il y a un besoin au point même que aujourd'hui, en plus de préparer sa retraite, il y a des personnes qui investissent pour leurs enfants, pour leurs études, etc. Et vous vous dites, bah pourquoi pas faire un petit peu comme les Trump Accounts là, qui ont été votés il y a quelques semaines, créer un livret de placement boursier pour les enfants.
Donc je le rappelle, hein, les enfants actuels, on va leur laisser au minimum 50 000 euros de dette publique par tête, et a priori, selon les études, ils devraient avoir une retraite au moins un tiers inférieur en valeur à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, leur avenir est pas rose du point de vue économique. Et j'ai observé que en Allemagne, le gouvernement du chancelier Merz veut investir 10 euros par mois pour tous les enfants de 6 ans à 18 ans sur un portefeuille d'actions diversifié pour leur retraite, avec pas d'impôt s'ils n'y touchent pas avant la retraite. Il y a le Trump Account, évidemment, aux États-Unis. En France, il y a un homme politique qui en a parlé déjà de cette idée-là. Alors là, moi, je suis un peu moins ambitieux. C'est-à-dire, je propose quelque chose qui ne coûterait rien. C'est-à-dire
parce qu'en fait, aux États-Unis, on leur donne 1000 dollars.
Voilà. Et en Allemagne, 10 euros par mois. Je demande quelque chose de beaucoup moins ambitieux, peut-être conscient des réalités parlementaires françaises actuelles, et je demande à ce que le PEA, le plan épargne en action, sur lequel on paye donc 18,6 d'impôt sur les plus-values au lieu de payer 31,4, que ce PEA, qui est ouvert uniquement aux majeurs, soit également ouvert aux mineurs. C'est aussi simple que ça. Au lieu de commencer l'éligibilité du PEA à 18 ans, on la commence à la naissance. Comme ça, de 0 à 18 ans, les parents pourront capitaliser pour leurs enfants en payant moins d'impôts et en investissant en Europe. Ça me semble être une proposition qui coûte rien à personne et qui serait facilitée, quoi.
Michel Delobel nous attend depuis MW Gestion, mais pour conclure
une
sur
phrase,
ce sujet,
Marc Appelmann. J'adore l'idée et je dirais juste, accompagnons-le de l'éducation des grands-parents. C'est souvent les grands-parents qui ouvrent des livrets A pour leurs petits-enfants. Les petits-enfants ont le temps long. Éduquons les grands-parents pour dire, au lieu d'ouvrir ce livret A, ouvrons ce PEA jeune ou PEA enfant et mettez donc vos deniers dans des produits à risque qui, sur le long terme, surperformeront quoi qu'il en coûte le livret A.
C'est le mot de la fin. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés pour ce déchiffrage. Marc Appelmann, donc le fondateur de CashBee, et Mathias Bacino, conseiller senior pour la croissance de Trade Republic. Hein, c'est une traduction un petit peu de senior advisor.
Ça marche bien.
Dans les deux sens. Comme ça, tout le monde aura compris votre nouvelle fonction. 11h24, comme promis, donc on va retrouver Michel Delobel.
Tout pour investir. Arbitrage.
Arbitrage ce matin avec donc Michel Delobel, gérant de portefeuille sous mandat chez MW Gestion. Bonjour Michel Delobel, vous nous accompagnez ce matin depuis votre maison de gestion. Vous suivez un petit peu ce qui se passe là sur les marchés, on l'a vu en préambule. L'Europe est sur une note prudente avant de débuter cette semaine qui est très riche, hein, que ce soit avec les publications d'entreprises, mais bien sûr avec les banquiers centraux.
Tout à fait, une semaine très très riche entre les publications, les banques centrales. Il ne faut pas oublier non plus que c'est la période des vacances en France, en tout cas pour la région parisienne et quelques autres régions en France. Il y a le 1er mai, donc voilà, ça incite pas forcément à prendre beaucoup d'initiatives, et d'autant plus que graphiquement, ben, on est un petit peu au milieu du guet. On avait quand même pas mal chuté avec la guerre en Iran, on a connu un joli rebond, mais avec une consolidation quand même la semaine dernière, et on est revenu finalement plus ou moins au milieu de la zone de baisse que l'on avait connue entre la fin du mois de février et la moitié du mois de mars, on va dire. Et graphiquement aussi, on s'est appuyé vendredi soir sur la moyenne mobile 20 jours et sur le haut du gap haussier qu'on avait ouvert le mercredi 8 avril quand il y avait eu quand même un semblant d'arrangement de la situation. Le détroit d'Hormuz est malgré tout toujours fermé. Les prix du baril se maintiennent au-dessus des 100 dollars de façon assez nette. Donc c'est pas évident d'y voir clair. C'est sûr que si on regarde les marchés américains, les valeurs technologiques, on a l'impression qu'il n'y a plus de guerre, que c'est fini, même si ces valeurs-là sont bien évidemment moins impactées par les prix du baril. Mais c'est assez compliqué d'y voir clair, de savoir où on va. On a l'impression que les marchés, les investisseurs ont envie de passer à autre chose. Mais votre intervenant précédent disait très justement, il y a vraiment une dichotomie entre le moral des investisseurs et le moral des consommateurs. Et qui va l'emporter à la fin là-dessus? Voilà, c'est difficile de savoir, mais j'ai quand même l'impression que l'économie, elle dépend aussi du moral du consommateur. Donc, il faudrait peut-être pas le négliger. Et voilà, tout va dépendre combien de temps ce conflit dure et le prix du pétrole se maintient au-dessus des 100 dollars.
Habituellement, Michel Delobel, dans cette émission avec Antoine Larigauderie, vous proposez une classe d'actifs, des actions, un tracker, un fonds, bref, une idée d'investissement. Là, en ce lundi 27 avril, vous nous dites je suis assez prudent là, j'ai pas trop d'idées, je me demande s'il faut pas rester un petit peu en dehors, en tout cas pas acheter, renforcer à court terme.
Ben, c'est compliqué quand on est un petit peu au milieu du guet de prendre des paris. Il y a un mois, quand on avait baissé de 10-15%, c'était un petit peu plus facile de faire son marché. Aujourd'hui, surtout avec des marchés américains qui ont beaucoup rebondi, la question est de se dire, avec les résultats, est-ce que finalement ils vont maintenir et confirmer leur regain de forme, ou est-ce qu'au contraire il va y avoir peut-être des prises de bénéfices, voire même des déceptions? On l'a vu la semaine dernière, les déceptions sur les publications peuvent être sévèrement sanctionnées. Donc prendre des positions comme ça un petit peu au doigt mouillé, c'est pas évident. Pour moi, il y a autant de chances que le marché retombe, que le marché reprenne le chemin de la hausse. Donc dans des moments comme ça, j'ai envie de dire de wait and see, on attend, on regarde. Éventuellement, pourquoi pas se positionner sur des trackers obligataires, par exemple, puisque les taux n'ont pas autant reflué que ce que le marché actions a pu faire. Donc pourquoi pas, mais c'est vraiment de la position défensive en attente. On arrive aussi sur le mois de mai et ce fameux dicton « sell and go away ». Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de précipitation à avoir aujourd'hui compte tenu de l'environnement particulièrement incertain dans lequel on évolue. On conserve bien évidemment des positions sur du moyen long terme parce que, comme disait votre intervenant, sur le long terme, les marchés actions restent ceux qui offrent la meilleure rentabilité. Mais il ne faut pas se jeter non plus la tête baissée ou
Très clair.
Quand même garder un petit peu de prudence et garder des liquidités parce qu'il pourra y avoir, il y aura sans doute des secousses.
Merci beaucoup. Michel Delobel de nous avoir accompagnés ce matin depuis MW Gestion, où vous êtes gérant de portefeuille sous mandat, comme très régulièrement dans cette émission, Tout pour investir. Très courte pause, on se retrouve dans un instant. Il sera 11h30, nous serons avec Alexandre Boutin, c'est le directeur général adjoint de la financière de Lorient. Nous reviendrons donc sur cette taxe sur les holdings patrimoniales qui a été votée fin 2025 et qui va rentrer en vigueur à partir de 2027. Donc on est vraiment dans une phase de transition. Il nous expliquera en quoi consiste cette taxe, comment il faut l'aborder et comment aujourd'hui, si vous êtes concerné, il faut se préparer. Et puis ensuite, nous parlerons avec Jean-Baptiste de Pascal de Interinvest de la défense. Vous l'avez vu, la BPI a lancé un fonds sur le non-coté afin de soutenir les valeurs de la défense. Comment aujourd'hui investir dans ces valeurs de la défense, que ce soit en bourse, mais aussi dans le private equity? Élément de réponse dans une dizaine de minutes. Et puis en dernière partie d'émission, comment ne pas parler d'intelligence artificielle, alors que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'annonces, que ce soit avec le chinois DeepSeek vendredi, avec les publications des GAFAM cette semaine. Oui, mais en final, quand on est une PME française, comment on peut se saisir dans l'intelligence artificielle? Comment vous, aujourd'hui, auditeurs, téléspectateurs de BFM Business, vous pouvez saisir cette IA pour améliorer votre productivité et faire plus? Ça sera le dernier sujet de cette émission aux alentours d'11h50. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.
Tout pour investir, la boîte à outils.
La boîte à outils ce matin avec Alexandre Boutin, directeur général adjoint de la financière de Lorient et directeur de l'ingénierie patrimoniale. Bonjour Alexandre Boutin.
Bonjour Étienne.
Bienvenue en plateau ce matin dans Tout pour investir, afin d'aborder, comme nous l'avions précédemment évoqué, la taxe sur les holdings patrimoniales. Alors c'est une taxe nouvelle qui a vu le jour lors du dernier projet de finances, c'était fin 2025. Et puis là, on est vraiment dans une phase de transition puisqu'elle sera applicable à partir de l'année prochaine. C'est quoi aujourd'hui l'objectif visé par cette taxe sur les holdings patrimoniales?
Donc c'est une taxe effectivement qui a été adoptée dans le cadre de la nouvelle loi de finances, qui a subi quelques évolutions puisque à l'origine, on est sur une taxe où le taux est beaucoup plus faible et avec une assiette large, et là on est sur un taux élevé avec une assiette réduite, on va en parler. Et la philosophie, c'est quoi? C'est de se dire que finalement, certaines holdings bénéficient de capacités d'investissement, de trésorerie, qui ont été peu fiscalisées dans leur acquisition, et qui sont employés à acheter des biens qui ne sont pas nécessairement des biens qui ont une vocation économique au sens déploiement d'une activité commerciale, artisanale, libérale dans l'économie pour générer du PIB. C'est ça l'idée.
Donc typiquement, c'est des yachts, des jets, des voitures de sport, des bijoux, enfin bref, tout ce qui n'a pas d'intérêt à proprement parler pour la société.
Oui, l'idée c'est ça, c'est de se dire que finalement, grâce à des perceptions de revenus peu ou pas fiscalisées, alors on a des dispositifs qui existent en France pour les holdings qui permettent de remonter des dividendes en quasi-franchise d'imposition ou de vendre des propres sociétés, ce qu'on appelle des cessions de participation avec peu d'imposition également. Et une fois que ces flux de capitaux sont récupérés par les structures holdings, eh bien, elles sont utilisées, mais pas toujours dans des vertus économiques. Et parfois, les capitaux sont utilisés pour acheter ce que vous avez cité comme nature de bien. Donc, le texte est très précis. Hein. Il vise une taxe à hauteur de 20%, mais sur une liste de biens qui est précisément codifiée à l'article 235-C du Code général des impôts. Et l'idée, c'est de se dire, tant que ces biens ne sont pas affectés à une activité économique au sens propre du terme, eh bien, ils rentrent dans cette assiette taxable.
Alors, il y a plusieurs critères pour être éligible à cette taxe sur les holdings patrimoniales. Déjà, il faut une valeur vénale sur les actifs de 5 millions d'euros, au moins 5 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on met dans ces 5 millions d'euros? Comment on les valorise?
Alors, ce premier critère, c'est la valeur de la société. Et c'est la valeur dite brute de la société. Une fois que cette société holding, qui détient un certain nombre d'actifs, passe le cap de cette valorisation de 5 millions d'euros, eh bien le premier critère, j'ai envie de dire, est rempli et on a la capacité à faire rentrer le premier critère pour la taxation des fameux 20%. Après, on a une série de critères qui suivent. Il faut que cette société holding elle ait des revenus dits passifs. Donc les revenus passifs, c'est à contrario des revenus d'activité libérale, artisanale, agricole, commerciale, industrielle. C'est des revenus qui sont issus du patrimoine de cette société holding. C'est du dividende, c'est du coupon. Sont aussi cités les droits d'auteur, par exemple. Voilà, c'est tout ce qui n'est pas lié à une activité au sens propre du terme. Un troisième critère, c'est celui des détentions capitalistiques. Ça veut dire que le dirigeant ou son groupe familial détiennent au moins 50% du patrimoine de cette société holding pour que, finalement, la société holding commence à être taxable.
Une fois qu'on a mis tous ces critères, est-ce que vous arrivez, ou est-ce que les services de l'État ont réussi à faire un petit peu le profil type des Français qui pourraient être concernés par cette taxe, et à la fin, ça pourrait concerner combien de personnes?
Dans le projet initial, parce qu'il a évolué, le projet initial, on avait des recettes budgétaires évaluées à 900 millions, 1 milliard. C'était un peu le projet initial d'aller récupérer ces dotations pour financer l'État. Là, on est en trajectoire, parce qu'il y a des modifications des sociétés éligibles, puisque, comme vous l'avez dit, comme c'est applicable, en tout cas, à clôture de bilan 31-12-2026, il y a encore des conseils qui peuvent acter des modifications pour sortir les sociétés éligibles. Et à date, on a des trajectoires, des évaluations qui pourraient définir une centaine de foyers fiscaux pour environ 100 millions d'euros de recettes, ce qui reste, malgré tout, pas tout à fait au niveau des objectifs initiaux, mais on reste dans le symbole quand même. Cette fameuse taxation reste finalement dans le symbole de taxer des biens qui ne sont pas affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
C'est du symbole, d'autant plus que là, 2026, c'est une année de transition, dans le sens où cette taxe n'est pas encore entrée en vigueur. Il faudra faire sa déclaration l'année prochaine. Donc les personnes aujourd'hui qui sont concernées par les critères que vous avez évoqués précédemment, ou en plus de cela, le temps un petit peu de se retourner s'ils souhaitent contourner cette nouvelle taxe.
Oui, tout à fait, on a tous les conseils qui doivent être à la manœuvre pour éviter de rentrer dans le champ d'application. Donc, comment faire? C'est la question. Il y a des biens qui sont directement visés, donc il y a peut-être potentiellement des arbitrages qui vont être faits par les sociétés pour réutiliser l'argent qui est issu de ces ventes sur d'autres types d'actifs. Je prends un exemple, les métaux précieux sont visés par la taxe et rentrent dans le champ d'application. Par contre, l'or papier, lui, n'est pas visé. Est-ce qu'il n'y aurait pas des arbitrages de détention d'actifs détenus comme ça pour les réallouer sur finalement le même actif, mais détenu de manière un peu différente? Voilà, c'est toutes ces stratégies de contournement du dispositif anti-abus qui sont en train d'être réfléchies par les conseils, qui sont très alerte sur le sujet, évidemment.
Sachant que ce n'est pas nouveau, hein. Typiquement, les yachts, il n'y en a quasiment plus immatriculés en France. Donc, c'est-à-dire qu'avant ce texte, il y avait déjà des exercices de contournement, en quelque sorte.
Tout à fait. Et puis, le principe, c'est de se dire que le yacht qui est détenu par une holding patrimoniale, ce qui est exclusivement dédié aux dirigeants, sans qu'ils soient mis dans une activité considérée comme étant professionnelle, c'est assez rare, hein, finalement. D'où la diminution, on va dire, de l'assiette taxable et cette fameuse trajectoire hauteur de 200 millions d'euros visée par le gouvernement.
Et ça sera bien sûr à suivre l'année prochaine lors des premières déclarations et des premières remontées de terrain. Merci beaucoup Alexandre Boutin de nous avoir accompagné pour faire un focus donc sur cette taxe sur les holdings patrimoniales. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la financière de Lorient et directeur de l'ingénierie patrimoniale. 11h38, tout de suite on va parler du secteur de la défense.
Tout pour investir. Le placement à suivre.
Le placement à suivre, oui, avec donc le secteur de la défense que nous allons aborder ce matin sous l'angle investissement avec Jean-Baptiste de Pascal, directeur général délégué de Interinvest. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Étienne.
Merci d'être avec nous ce matin pour parler du secteur de la défense. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de faire à côté de ce secteur. Il avait déjà été mis en lumière en 2022 avec la guerre en Ukraine. Et là,
exactement.
Eh bien, depuis deux mois avec le conflit en Iran, nous ne pouvons pas faire à côté. Est-ce que vous pensez qu'avec ces conflits bien malheureux, les Français, les épargnants, ont conscience du fait qu'il faut accompagner l'industrie de la défense et surtout les petites sociétés hein, de cette industrie en France qui ont besoin d'argent pour se développer et répondre au carnet d'ordre.
Alors, ça commence, mais je ne suis pas sûr qu'on soit encore assez loin. On pourrait se donner un petit... on pourrait faire un petit exercice. C'est est-ce qu'on considère que la défense en France, elle est suffisante. En général, c'est assez unanime. On va vous dire, on a un seul porte-avions, on est un peu léger. Quand on voit ce qui se passe en guerre au Moyen-Orient, on n'a pas assez de matériel, etc. Le constat, il est assez unanime. On est tous là, moi le premier, à critiquer notre armée. Par contre, on pose une deuxième question. Est-ce que vous investissez dans la défense? On est beaucoup moins investi en France dans le secteur de la défense.
D'autant plus que les facteurs ESG, il y a 4-5 ans, ont exclu beaucoup de secteurs, beaucoup de valeurs.
Même plus que ça, c'est-à-dire qu'on nous a donné une conscience écologique forte en l'opposant presque au secteur de la défense. Il y avait notre ancienne ministre de l'armée qui le relevait au niveau européen. On avait mis le secteur de la défense au même niveau que le secteur pornographique. Pour vous dire à quel point on avait banni le secteur de la défense. On ne pouvait pas investir, ce n'était pas dans les bons critères ESG. Et au niveau de l'éthique, on le considérait vraiment comme la dernière chose à faire. Mais l'éthique, on le voit actuellement, ça s'arrête un peu à la porte de la liberté et de la paix. On a besoin de la défense et donc il faut faire évoluer la conscience qu'on a dans ce besoin d'investissement.
Ce besoin d'investissement qui est fort, hein, on le voit, il y a beaucoup de sociétés qui ont besoin de se développer. D'ailleurs, on aura probablement beaucoup d'introductions en bourse dans le secteur de la défense cette année. Et à ce stade, les conflits en cours sont instructifs. Un petit peu comme les problèmes énergétiques qu'on a eu il y a quelques années. Bah, en fait, malheureusement, parfois, il faut des chocs pour se réveiller, se dire bah, « oui, il faut y aller ».
Exactement. Bah, ça nous apprend déjà qu'on a besoin de produire, mais qu'on a besoin de produire quoi ? On a l'arme nucléaire, mais les conflits actuels, ça reste des conflits, avec des besoins conventionnels. On a besoin de bombes, on a besoin de nouveaux usages de drones, et on a besoin de produire. Et on se rend compte, il y a quelque chose qui est assez marquant en France. On a récemment inauguré une usine qui produit des obus. On en produit, à 2027, on pourrait en produire 200 000. C'est à peu près 20 jours de conflits chez les Russes. On n'est pas encore dans la capacité de soutenir un conflit en haute intensité. Donc on a besoin de produire. On a besoin d'innover, parce que on le voit, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, il y a des drones qui arrivent. Les drones, on n'en produisait pas suffisamment il y a 20 ans, encore moins il y a 10 ans. Maintenant, ça commence à arriver. Mais pour produire des drones, il faut modifier nos normes. On le voyait sur un exemple récent, on a un peu raté l'Eurodrone au niveau européen. Il y a une initiative privée qui a fonctionné et qui a dit, attendez, quand on fait voler un drone intercepteur pour aller s'exploser sur un autre drone ou sur une bombe, est-ce qu'il doit avoir toutes les normes d'un objet volant type un avion? Pas sûr. Donc on doit s'adapter aussi au niveau normatif en disant, il y a des nouveaux usages, des nouveaux besoins. Pour produire en quantité, il faut adapter les normes et le secteur en lui-même.
Et pouvoir être là aussi face à une concurrence qui est très forte de la part des acteurs américains. On le voit, il y a beaucoup de pays en ce moment qui achètent de l'armement américain. Et puis aussi demain, l'armement asiatique, hein, avec la Chine qui est quand même au premier plan sur ce secteur. Bon, aujourd'hui, un auditeur téléspectateur qui est convaincu, qui a envie de se dire, allez, j'ai envie que mon argent participe demain au développement d'une société dans ce secteur de la défense. Comment il peut investir? Comment il peut participer à tout cela?
Il y a deux réponses. Il y a la réponse avec ce qu'on connaît dans les entreprises cotées, un peu le Big Four, en disant bah, je peux aller voir du Thales, du Airbus, du Safran, etc. Mais là, effectivement, vous l'avez dit, elles sont pas toutes en augmentation de capital. Quand on est dans une augmentation de capital, ces entreprises cotées, on contribue à leur développement. Et sinon, il y a aussi le private equity, venir soutenir des entreprises non cotées qui sont le plus gros quand on prend la base industrielle de technologie et de défense en France, qui est ceux qui produisent vraiment dans ce secteur-là, c'est plus de 80% des PME, des ETI. Elles sont pas cotées. Elles ont besoin d'investissement. Donc l'investissement dans le non-coté, sur le secteur de la défense, ça c'est une prise de conscience qu'on doit avoir.
Avec la BPI, notamment, qui a lancé son fonds, donc c'est la Banque publique d'investissement, ça envoie un message quand même. C'est pas que symbolique, puisque c'est un fonds qui collecte beaucoup d'argent. Mais
exactement,
ça amène derrière d'autres acteurs à dire on y va aussi.
Exactement. Nous, chez Elevation Capital Partners, on a créé un fonds qui s'appelle Patria, qui est accessible à partir de 100 000 euros, qui est dans nos côtés. BPI a lancé son fonds qui est accessible beaucoup plus tôt, à partir de 500 euros. Il y a beaucoup d'initiatives privées sur des lancements de fonds en private equity pour recueillir ces besoins de financement. Mais le besoin du secteur de la défense, il ne sera pas uniquement militaire, il est aussi financier. Et ça passe par une prise de conscience personnelle en disant, est-ce que je suis investi dans ce secteur-là? Est-ce que j'utilise les moyens qui me sont mis à disposition pour contribuer à l'effort de la défense?
On est dans du private equity, donc on est sur du non-coté. Il faut avoir un horizon de temps. C'est-à-dire qu'on peut pas acheter ce fonds de la BPI ou tout autre fonds en se disant j'investis et puis dans 6 mois, dans 1 an, je revendrai cet argent pour me faire plaisir, pour acheter ma résidence principale. Aujourd'hui, vous l'avez dit, ce fonds de la BPI, c'est à partir de 500 euros. Il vise une collecte d'environ 450 millions d'euros avec un rendement cible d'environ 5%. Est-ce que ça vous semble cohérent aujourd'hui, ce rendement de 5%? Comment aujourd'hui il faut appréhender ce type de produit? Quelles sont les règles à savoir avant d'y aller?
Alors, vous l'avez dit déjà, c'est le temps long, c'est le private equity, et c'est le temps long et c'est illiquide. Donc, c'est-à-dire que c'est nécessairement de la trésorerie dont je n'ai pas besoin pour mon projet de demain. C'est le principe du private equity. Ça donne un horizon long, mais un horizon sur lequel je peux, entre guillemets, voir une projection. C'est-à-dire que là, dans le secteur actuel de la défense et de la conjoncture internationale, je vois qu'il y a des besoins sur le long terme dans la défense, parce que voilà, on repart d'une feuille où il y a beaucoup à produire, donc j'ai du temps long. Mais effectivement, ce n'est pas une espérance de rendement où je vais me dire, dans très peu de temps, je peux me faire. Là, on l'a vu, on en parlait sur de l'IA il y a quelques instants, qui a pris quasi 20% en un mois. Ce n'est pas du tout ce secteur-là, ce n'est pas du tout cet objectif-là, c'est vraiment un objectif de temps long, donc d'évolution progressive, mais qui, entre guillemets, aussi nous protège, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins sensible à une variation de marché. Comme ce n'est pas liquide, vous n'avez pas une variation qui bouge instantanément à chaque événement international. Mais en revanche, c'est-à-dire que je dois m'inscrire dans une logique de long terme, d'accompagnement. Et je disais tout à l'heure, la base industrielle de technologie de défense en France, on estime qu'ils ont besoin, là, de fonds propres, entre 3 et 4 milliards d'ici à 2030. Donc il y a un besoin d'accompagner ces entreprises en fonds propres, donc d'investir directement dedans pour les soutenir et les aider à se développer.
Ça, c'est en France, ce fonds de la BPI. Bien sûr, il existe des fonds aux États-Unis, où là, il y a un peu plus de questions, peut-être, sur la dette privée, sur le non-coté. Comment aujourd'hui on peut diversifier cet investissement dans le secteur de la défense, sachant que la diversification, c'est la règle numéro 1. C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui a envie d'investir dans la défense, il ne faut pas qu'il achète que des actions Thales ou que ce fonds défense.
Exactement.
Comment aujourd'hui on peut répartir son argent sur différents supports pour accompagner cette thèse?
Exactement. Il faut répartir donc la thèse de la défense sur plusieurs typologies de financement. Donc, vous avez parlé de la dette, c'est un secteur, c'est une méthode de financement qu'on peut utiliser, puisque des entreprises qui font crédit. Le secteur du coté, c'est une technologie, enfin une boîte à outils qu'on peut utiliser en disant je vais venir, peut-être surveiller des augmentations de capital dans le secteur coté. Le non-coté via des fonds, effectivement, parce qu'un fonds, ça nous permet en fait d'avoir un panier, c'est-à-dire de ne pas être directement dans une entreprise de la défense, mais d'être réparti sur 10 à 20 entreprises secteur de la défense. Et effectivement, regarder l'international. On peut regarder aux États-Unis, mais aussi on peut regarder notre pays comme l'Allemagne, qui a annoncé des objectifs de redéploiement sur le secteur de la défense assez forts. L'Allemagne qui a quand même une base industrielle élevée, des besoins dans le secteur de la défense élevés, donc on dirait que ça devrait matcher en termes de perspectives et d'ambition de développement.
Merci beaucoup Jean-Baptiste de Pascal de nous accompagner ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de Interinvest pour faire ce focus, un petit peu un mode d'emploi du secteur de la défense sous l'angle de l'investissement. On se retrouve dans un instant pour notre dernier quart d'heure. Nous parlerons d'intelligence artificielle. Enfin, c'est vrai que comme pour la défense, c'est compliqué de faire à côté de cette thématique, hein, l'intelligence artificielle qui commence peu à peu se déployer dans les entreprises, surtout les grandes sociétés, mais aussi et surtout dans les PME. Comment aujourd'hui, en tant que dirigeant ou même salarié d'une PME française, vous pouvez saisir l'intelligence artificielle? Benjamin Watine de Sowifund sera avec nous dans quelques instants pour nous donner lui aussi son mode d'emploi.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Le coffre-fort ce matin avec Benjamin Watine, le cofondateur et CEO de Sowifund. Bonjour Benjamin.
Bonjour Étienne. Tu
peux rappeler qui est Sowifund ?
Alors Sowifund, c'est la plateforme pionnière et leader du co-investissement dans l'innovation. Donc notre métier, c'est identifier, sourcer les meilleures startups d'un côté et de les présenter à notre communauté d'investisseurs qui est aujourd'hui composée d'un petit peu plus de 160 000 membres. Chaque projet que nous présentons à notre communauté est déjà, a déjà souscrit l'adhésion de fonds d'investissement, family office, gros réseau de Business Angels, pour pouvoir essayer d'apporter un peu plus de réassurance, et puis parce qu'on investit mieux à plusieurs.
C'est combien le ticket d'entrée ? Ça s'adresse à qui aujourd'hui votre cible ?
Aujourd'hui, on peut investir à partir de 1000 euros environ, c'est le ticket d'entrée, parfois 500 de manière exceptionnelle, et cela sur des tickets non limités, puisqu'on accompagne des sociétés qui généralement recherchent ont des besoins de financement entre 500 000 euros et 5 millions. Vous voyez, donc c'est à différents stades de développement de l'entreprise.
Développement sûrement en ce moment lié à l'intelligence artificielle. Hein, c'est vrai que là, en l'espace de 20 minutes, on fait les deux grands thèmes du moment avec la défense, Jean-Baptiste de Pascal qui en parlait précédemment. Et puis l'IA, en plus c'est vrai que les deux sont compatibles hein, parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus l'intelligence artificielle dans ce segment de la défense. Vous vous adressez notamment à des PME, à des ETI françaises, mais pas que. Quels sont leurs besoins aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ce qu'on voit dans ce sujet qui touche tout le monde de l'intelligence artificielle, c'est que finalement, on entend parler de ChatGPT, Gemini, qui faut choisir ? Qui on va Anthropique ? Tous les 3 à 6 mois, il y a une nouvelle version d'un de ces acteurs et les dirigeants sont totalement assez cristallisés et décident d'attendre que ça se stabilise pour pouvoir prendre une décision et passer un peu à cette révolution. Et c'est là le piège, justement. Le piège, c'est de ne pas et d'attendre, parce que ça fait déjà 2 ans que certains dirigeants ont commencé. Il y a une étude BPI qui l'a montré. Il y a plus de 38% des dirigeants français TPE PME avaient déjà commencé à travailler et à utiliser certains LLM. Cette année, en 2025, c'était plus de 50% de ces dirigeants. Et donc, il ne faut pas passer à côté de cette révolution.
Pas passer à côté de cette révolution, mais là aussi, il faut savoir comment faire, à qui je m'adresse, si demain je dois lever de l'argent, comment je le fais, quelle technologie choisir, hein, vous l'avez souligné, avec des modèles qui changent en permanence. Alors bon, vous n'êtes pas une ESN, vous n'êtes pas là pour envoyer des consultants dans des sociétés et dire il faut choisir telle solution, faire ceci ou cela. À votre niveau, comment aujourd'hui vous pouvez les accompagner, ces PME françaises ?
En fait, nous aujourd'hui, on a un portfolio qui est quand même de plus d'une centaine de participations, je discute avec beaucoup de dirigeants, et ce qui est très important, et donc j'ai quand même envie de partager le sujet avec le reste des dirigeants et avec le reste des Français, c'est qu'aujourd'hui, il y avait la période LLM, on fait sa demande et on nous accompagne pour nous aider sur mail. Le sujet, c'était tout est un peu azimut et chacun fait. Il faut aujourd'hui, c'est passer par des outils qui sont des environnements et d'essayer d'avoir quelque chose pour le dirigeant de stable, qui profite à l'entreprise et pas seulement aux salariés dans l'intérêt de l'entreprise et qui soit bien structuré. Et pour ça, il y a quelque chose qui est assez récent, mais maintenant, ça a même quelques temps, c'est tout ce monde agentique, c'est-à-dire permettre à des entreprises, des salariés, de créer des agents qui les accompagnent de manière plus approfondie et automatisée dans leurs tâches. Et pour ça, la grande différence et la nouveauté, c'est que il ne faut pas un agent aujourd'hui, pour qu'il soit de qualité, il faut qu'il soit connecté à vos données de l'entreprise. Il faut que les réponses soient personnalisées, de qualité, en rapport avec vos process, et ça c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'il y a des outils comme Cocorico, Dust, qui est un environnement qui vous permet justement, eh bien, de connecter vos données IA de l'entreprise, vos données, vos contrats, et de faire en sorte, eh bien, de donner un accès à un environnement qui est sécurisé, RGPD, et donc, cerise sur le gâteau, bah, vous savez pas quoi choisir, quel est LLM. Là, en l'occurrence, vous avez accès à tous les grands modèles.
Comme dans chaque révolution, il y a des gagnants, des perdants. Alors, les sociétés que vous venez de souligner seront peut-être les gagnants de cette intelligence artificielle, et puis d'autres vont se faire disrupter. Ça, c'est un sujet aujourd'hui quand on est investisseur. Comment appréhender ce sujet, ne pas céder à la panique dans un bruit permanent, vous l'avez souligné, avec beaucoup de mises à jour en ce moment. Et puis, en même temps, laisser aussi le temps faire les choses. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est en difficulté aujourd'hui parce qu'elle n'a pas pris le virage, elle peut se reprendre demain. C'est vrai qu'on est dans du temps long et en même temps, le monde va très vite. Donc, il faut trouver un entre-deux.
Bah, côté investisseur, je dirais qu'il faut essayer de ne pas avoir un comportement trop moutonnier. L'idée, c'est qu'à chaque fois, nous, on reçoit beaucoup de dossiers dès qu'il y a marqué IA, ça donne envie d'investir. Il faut être très très attentif parce que tous les modèles, toutes les entreprises, déjà n'ont pas vocation à forcément intégrer l'IA plus que ça. Il faut l'intégrer, le prendre mieux, mais c'est pas une innovation de profonde. Et puis nous, on a par exemple accompagné une entreprise comme Lemrock qui, il y a 2 ans, son métier n'existait même pas, puisque Lemrock va accompagner les sociétés dans le e-commerce, et bien à apporter toute une couche pour faire en sorte que tout leur catalogue soit disponible auprès de tous les grands LLM, les grands modèles de LLM, ChatGPT, Gemini & Co, sans passer par Google. Donc vous voyez, ça va leur permettre de vendre directement dans les chats des LLM. Aujourd'hui, on accompagne une autre boîte comme Corben, qui, elle, va plutôt, et qui fait déjà 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en à peine un an et demi d'existence, et qui, elle, va accompagner eh bien, les sociétés à implémenter des robots. Donc là, on est dans la société d'intégration un peu nouvelle génération ESN, mais au travers d'un outil qui va permettre d'implémenter plein de robots de marques différentes. Si je reviens à votre question sur la partie...
Destruction créatrice.
J'ai même envie déjà, pour clôturer le sujet de l'implémentation en fait de ces outils, c'est qu'on parle des outils tout le temps, mais la vraie difficulté, le vrai challenge, il se fait au niveau de l'humain. Aujourd'hui, c'est la conduite du changement qu'on voit qui est complexe à mettre en place. Et on n'y fait pas assez appel, on n'y fait pas assez attention. En gros, ces salariés, ces employés, il faut définir, identifier des champions pour faire en sorte que ces employés, amènent et fassent en sorte que chaque collaborateur s'empare du sujet et que ça se développe vraiment. Parce qu'on voit que l'adoption, c'est pas quelque chose de si évident que ça dans l'entreprise. Et après, il y a des gros sujets qui sont liés à la sécurité. On parlait tout à l'heure de défense dans votre émission, mais on parle de sécurité des données. Ça va être c'est un gros sujet. Et pour ça, il faut vraiment se faire accompagner par des sociétés de type, je sais pas, des agences RIA aujourd'hui qui sont des agences pour vous accompagner, vous former dans cette conduite du changement, qui ont le vent en poupe, mais il y en a d'autres. Et donc, c'est quelque chose de vraiment essentiel.
Aujourd'hui, quelqu'un qui vient vers vous, et c'est bien sûr le mot-clé de cette émission, c'est dans une optique de diversification. On va pas aller mettre toutes ses billes sur un projet, sur une levée de fonds. Vous en êtes où aujourd'hui sur un petit peu le suivi des sociétés qui ont été accompagnées, sachant qu'on est quand même sur un tournant, que ce soit pour votre classe d'actifs, mais également pour le private equity, avec la remontée des taux, le taux de défaillance, l'intelligence artificielle. C'est quoi un petit peu là les retours de terrain là sur les 3, 4, 5 dernières années?
Nous, on a même une dizaine d'années aujourd'hui avec Sovifund. Donc, si vous parlez, c'est le track record?
Oui.
Ouais.
Si je regarde le track record depuis la remontée des taux et puis un petit peu la sortie de Covid et la fin un petit peu de l'euphorie qui concerne votre classe d'actifs, mais aussi toutes les classes d'actifs. On est bien sûr sur un tournant majeur.
On voit bien que... alors déjà, quand il y a des difficultés souvent dans le monde, pas forcément du private equity, mais au niveau macro... ça profite souvent à la finance alternative. Nous, on voit aujourd'hui, on a de plus en plus de dossiers matures, de qualité, qui font appel au financement participatif et à l'investissement au travers de Sovifund parce que, on vient apporter vraiment un complément de financement où on fait appel de plus en plus aux particuliers. C'est un peu la retailisation du non-coté. On en a parlé quelques fois dans cette émission. C'est vraiment quelque chose, c'est une vraie lame de fond et on vient co-investir avec les institutionnels.
Et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler, notamment avec vous. Mais en attendant, on est au bout, il est 11h57. Merci beaucoup Benjamin Watine de nous accompagner ce matin, cofondateur et CEO de SoWeFund. Dans 3 minutes, il sera 12h. Comme chaque jour, vous retrouvez bien sûr Marie-Cœur de Roy et les experts de l'IMO. Tout pour investir revient demain à partir de 11h. Très bonne journée.
Tout pour investir sur BFM Business.